Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison. C'était la rentrée scolaire aujourd'hui en France pour plus de 12 millions d'élèves, mais aussi pour presque 900 000 enseignants. Beaucoup de ces enseignants ne le cachent pas et cela va grandissant depuis quelques années. Ils ressentent un certain malaise et en particulier un manque de reconnaissance aussi bien financière, il faut bien le dire, que symbolique. Cela s'adresse aussi bien aux parents qu'à leur hiérarchie ou à leur tutelle. Plusieurs mouvements sociaux l'ont exprimé ces derniers mois et dans sa communication autour de cette rentrée, le ministre Jean-Michel Blanquer explique qu'il a reçu le message. Les profs sont-ils les mal-aimés du système éducatif français? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Patrick Rayou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences de l'éducation à l'université Paris 8 et membre du laboratoire CIRCEFT ESCOL. Et Jean-Rémy Girard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président du syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur, le SNALC. On se trompe ou on a l'impression qu'il y a quand même une forme de malaise cette année, Jean-Rémy Girard?
Oui, il y a une forme de malaise qu'on a, je crois, assez bien senti en fin d'année dernière au moment du baccalauréat. Mais j'ai envie de dire, ça c'est une sorte de crise qui révèle une dépression beaucoup plus profonde. Il y a des indicateurs très clairs. Hein. Les concours de recrutement des enseignants ne font pas le plein chaque année, ce depuis plusieurs années. Il y a de moins en moins de candidats. Et ce qui était propre jusqu'à présent plutôt aux enseignants de collège et de lycée, maintenant commence à gagner les enseignants de primaire. Donc effectivement, on est dans un métier que nous, on qualifie de métier en crise, et c'est une crise qu'il faut résoudre, et on voit bien que jusqu'à présent, il n'y a pas grand-chose qui a été fait pour la résoudre.
Patrick Rayou, il y a une crise des vocations, est-ce qu'on est dans une sorte de dépression qui s'étend à toute une profession?
Oui, il y a une crise des vocations. Alors, si on regarde un peu aussi au plan international, c'est pas une crise qui est spécifiquement française, il faut le dire, ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas à agir en France, bien évidemment. Elle se voit à plusieurs niveaux, il y a en effet un déficit de vocations, mais il y a aussi des choses, je pense, dont le ministère prend la mesure aujourd'hui, même si on n'a pas, je crois, vraiment de données, c'est les gens qui partent de l'éducation nationale, ce qui était un phénomène. Moi, par exemple, lorsque j'étais jeune professeur, l'idée de quitter l'éducation nationale était une idée absolument invraisemblable.
De la science-fiction. Hein.
C'était la science-fiction.
Voilà. Ouais, ouais. Et c'est du ras-le-bol ou une forme de colère, Jean-Rémy Girard?
C'est beaucoup de gens désabusés, je dirais. C'est des gens qui, en plus, aiment leur métier, c'est-à-dire, la grande majorité des enseignants que je connais, ils aiment enseigner, ils aiment le rapport avec les élèves, ils aiment transmettre leurs connaissances, ils aiment échanger, enfin voilà. Mais les conditions dans lesquelles ça se passe sont de plus en plus difficiles, de plus en plus pesante, aussi bien au niveau du climat de discipline, qui est quand même pas terrible, des tailles des classes, mais également le fait qu'on a de plus en plus de réunions, de plus en plus de choses qui se sont surempilées sur notre métier de base, ou sur notre cœur de métier, qui font qu'aujourd'hui, on sait plus très bien comment on est un enseignant aujourd'hui, un enseignant respecté et un enseignant qui est reconnu par la société comme un vrai professionnel et dont on ne débat pas partout tout le temps, où chacun donne son avis sur mais ça devrait être comme ci, mais vous devriez pas faire ça comme ça. Ça, c'est quelque chose qui est très très pesant pour les collègues.
Alors Patrick Rayou, on va prendre tous les problèmes qui ont été évoqués par Jean-Rémy Girard les uns après les autres. On va peut-être commencer par l'aspect financier. Les enseignants dénoncent un manque de reconnaissance financière. Ils sont mal payés en début de carrière, en milieu de carrière et même en fin de carrière. Ça dépend du niveau dans lequel ils enseignent. Comment est-ce qu'ils sont payés par rapport à leurs collègues européens, puisque vous évoquiez des études, un phénomène un peu international? Est-ce qu'il y a des chiffres parlants là-dessus?
Oui, il y a des chiffres parlants là, que je pourrais vous asséner en lisant mes petits papiers, mais je crois qu'on est plutôt dans la deuxième moitié du tableau de l'OCDE, hein, je crois 19e sur 37, quelque chose comme ça. Un enseignant, professeur des écoles, je crois, français, payé la moitié moins d'un collègue allemand, moins qu'un espagnol. Je crois qu'on est à peu près au niveau du Chili en termes de rémunération.
Alors, ils ont plus d'heures de cours.
Rien contre le Chili, voilà, avec un des aspects aussi du sentiment de déclassement, qui est davantage d'heures de cours et davantage d'élèves, si on regarde regarde le ratio élève-enseignant. Mais ça, le constat, finalement, tout le monde le fait aujourd'hui. Ce qui est nouveau, c'est que tout le monde est d'accord pour dire qu'ils sont déclassés, le ministre compris, etc. La question est de savoir comment revaloriser et surtout, est-ce qu'il ne faut revaloriser que l'aspect financier, dans la mesure où c'est une condition nécessaire, mais peut-être pas suffisante.
Alors, pardonnez-moi, mais on va en parler évidemment du reste, mais on va quand même, je vais insister un petit peu sur l'aspect financier. Oui. Un enseignant par rapport à un autre fonctionnaire, disons, de même catégorie, Jean-Rémy Girard, c'est moins bien payé ou...
Globalement, dans la fonction publique d'État, sur ce qu'on appelle les cadres, effectivement, les enseignants sont tout en bas. Si on fait la moyenne des cadres, on est presque à 1 000 euros de moins. En fait, il y a un chiffre assez impressionnant là-dessus, c'est quand on a la moyenne, le salaire moyen des fonctionnaires de notre catégorie, on est sur 2 700 euros, quelque chose comme ça. Si on enlève les enseignants, on grimpe à 3 700, quelque chose de cet ordre-là. Donc il faut voir que là, on a non seulement, j'allais dire, un problème vis-à-vis du métier au niveau européen, OCDE, mais on a un problème vis-à-vis du fonctionnement de la fonction publique. Les enseignants souffrent d'un grave défaut, ils sont nombreux. Parce qu'on en a besoin de beaucoup.
Oui, mais 171 000 là pour cette rentrée.
Voilà, c'est ça. Voilà, vous voyez.
Et donc, 900 000.
Ce qui fait que, à partir, quand on se dit, bon, il va falloir, il y a des métiers dans la fonction publique qu'il faut revaloriser, qui sont, à un moment, on regarde, bon, alors, les enseignants. Ah oui, mais non, mais là, ils sont trop nombreux. Si jamais on fait quelque chose, il va falloir dépenser un budget pas possible. C'est trop compliqué. On va faire un petit machin en 5 ans où à la fin, ils vont avoir gagné 3 clopinettes et on va essayer de le vendre. Mais c'est pas possible. Aujourd'hui, on le voit bien. Quand vous êtes un professeur de mathématiques, vous avez fait un bac plus 5 en mathématiques, vous avez passé un concours, vous commencez à 1500 euros, souvent dans une banlieue un peu difficile, vous imaginez que en entreprise, vous n'êtes pas payé ça, et les conditions de travail, même s'il y a, je dis pas que l'entreprise c'est tout rose, hein, loin de là, mais enfin, généralement, votre collègue de bureau va pas vous jeter la chaise à la figure. Quoi.
Comment est-ce que ça s'explique, Patrick Rayou? C'est le gel du point d'indice, les enseignants, ils ont un certain nombre de points en fonction de leur fonction, de leur ancienneté, de leur responsabilité éventuelle comme chef d'établissement par exemple, et le montant qui accompagne chaque point n'a pas bougé depuis 2010. Ça veut dire, c'est ce que l'expliquait Jean-Rémy Girard, il n'y a pas d'augmentation générale depuis 10 ans.
Oui, c'est ça. Alors ça concerne l'ensemble de la fonction publique. Néanmoins, on pourrait imaginer que même si le point d'indice restait ce qu'il est, il pourrait y avoir des augmentations, mais ça n'est pas le cas. Je crois que c'est la seule chose qui ne fonde pas sur la planète aujourd'hui, c'est le point d'indice qui est toujours gelé. Il y a des indicateurs assez simples. On dit que dans les années 80, un enseignant gagnait en moyenne 2 fois le SMIC. On en est à 1,3. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'ils peuvent constater assez facilement.
Ça, c'est une vraie perte de pouvoir d'achat qui se mesure.
Hein. Ça. Oui, ça se mesure.
Le SNAL qui a fait des études là-dessus. Il suffit de regarder la courbe. Il n'y a même pas besoin d'aller plus loin. Enfin, c'est très, très, très signifiant. Ouais.
Le ministre Jean-Michel Blanquer annonce une augmentation de 300 euros en moyenne pour l'ensemble de l'année prochaine, 2020. Est-ce que vous pensez qu'il a pris la mesure du problème et du mécontentement, Jean-Rémy Girard?
Alors là, en fait, il annonce une mesure qui a été décidée sous le gouvernement de Najat Vallaud-Belkacem. Mmh. Donc, alors, ça s'appelle le PPCR. Hein, c'est tout un truc. C'est très compliqué pour comprendre la grille avant, après, pendant. C'est un bazar. Nous, on passait 1h30 à l'expliquer aux adhérents, hein, avec un diaporama de 30 diapositives, un truc de fou. Voilà. Bref, en tous les cas, c'est quelque chose qui a été voté bien avant Jean-Michel Blanquer. Alors, on est bien d'accord que c'est quand même une sorte de cadeau empoisonné, dans le sens où c'est à Jean-Michel Blanquer et à la majorité de débloquer le budget pour mettre en place la mesure qu'il n'a pas décidée. Néanmoins, à l'arrivée, ce truc-là, c'est quoi en moyenne, sachant qu'il y en a donc qui touchent nettement moins que ça, voire rien du tout, c'est moins de 20 euros net par mois. Enfin, c'est un ciné et une pizza. Voilà. Je peux vous assurer que la baisse du pouvoir d'achat des enseignants, elle se traduit pas par un ciné et une pizza, en fait. Et je trouve ça un peu fou de faire de la communication là-dessus quand on balance le chiffre de 300 euros, ce qui fait que moi je sais que tout le monde au départ a cru comprendre que c'était 300 euros par mois. Et très très vite, effectivement, tout le monde s'est rendu compte que c'était pas ça.
Autre problème exprimé par beaucoup d'enseignants, et vous en parliez tous les deux, et on va y passer maintenant, c'est la reconnaissance de leur rôle dans la société. C'est de plus en plus compliqué par rapport aux élèves. Jean-Rémy Girard, vous parliez de gens qui vous balancent des chaises à la figure. Patrick Rayou, c'est un aspect qui est difficile pour les enseignants.
Oui, c'est difficile pour les enseignants parce que le rapport entre l'école et la société a changé beaucoup hein, dans les années antérieures, notamment du fait de ce qu'on appelle la massification du système éducatif et du collège. Les rapports et les familles ne sont pas les mêmes. Le rapport à la société n'est pas le même, même si pèse quand même sur l'école la nécessité de former et de qualifier. C'est ça qui est un peu, je sais pas si je peux dire, surprenant, en tout cas qui est organisateur de la tension. C'est qu'on attend de plus en plus de l'école de gens qui commencent à être désabusés parce qu'ils se sentent moins reconnus. Et de fait d'ailleurs, et c'est un peu ce que les psychologues appellent la souffrance au travail ou le travail empêché, c'est que beaucoup d'enseignants qui sont pas très bien le sont parce qu'ils voudraient faire ce qu'ils ont à faire et qu'ils n'y arrivent pas. Je crois que c'est des choses qu'on vit sur le mode de la frustration dans d'autres professions, mais qui là sont un peu à leur paroxysme du fait de la difficulté de ce qu'il y a à faire. On pourrait parler des réformes hein, qui s'empilent les unes sur les autres année après année et qui démoralisent beaucoup d'enseignants, à tel point qu'ils décident souvent d'en appliquer aucune. Ils feront comme avec les précédentes et on peut les comprendre d'une certaine manière. Il y a beaucoup de choses qui chargent leur barque. À un moment, encore une fois, l'école est devenue incontournable.
Jean-Rémy Girard, je voudrais pas employer des phrases un peu clichés, mais il y a plus de respect pour les enseignants de la part des élèves. Ils ont perdu leur autorité.
Alors, c'est pas un truc qu'on perd ou qu'on gagne comme ça. C'est simplement, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, l'école n'est pas forcément quelque chose qui est situé en haut comme quelque chose de reconnu, d'indéboulonnable, qui aurait une autorité par elle-même, qui de ce fait protégerait en fait les personnes qui y travaillent.
Ce n'est plus le cas en tout cas.
Non, c'est globalement plus le cas. Et effectivement, en fait, l'autorité s'acquiert beaucoup plus aujourd'hui de manière individuelle. C'est vous, enseignant dans votre classe, avec vos élèves, qui allez pouvoir tenter d'installer votre autorité et de faire en sorte que la classe se passe bien, sachant que, ça on l'a vu avec le mouvement Pas de Vague en automne dernier, énormément d'enseignants se sentent très lâchés par leur hiérarchie, et donc si on peut pas compter non plus sur un certain nombre de personnes qui sont dans les échelons supérieurs, à un moment on ne compte que sur soi-même. Et c'est très très dur de ne compter que sur soi-même dans un métier comme ça, où vous êtes au contact d'enfants, d'adolescents qui ont tout un tas de problèmes, tout un tas de difficultés, qui sont parfois dans des situations sociales ou économiques grave, et où vous essayez, vous, de jongler avec tout ça et en même temps de leur apprendre l'accord du participe passé.
Patrick Rayou, la hiérarchie soutient-elle les enseignants? On parlait à l'instant du hashtag pas de vague. Est-ce qu'il y a un soutien ou des explications de la formation pour leur dire comment tenir une classe?
Oui, ça aussi, c'est un des problèmes de mon point de vue. Peut-être qu'on ne serait pas d'accord là-dessus de la nature et du statut des chefs d'établissement en France. C'est que ils ont un statut qui est essentiellement hiérarchique par rapport aux enseignants, et que le fait de pouvoir les soutenir, ils n'ont pas à les former. D'une certaine manière, ça ne les regarde pas. Et on sait bien que les projets d'établissement qui sont construits ne sont pas forcément des projets de tout l'établissement. Donc là, il y a une spécificité quand même par rapport à d'autres pays qui font que les enseignants obéissants, en tout cas se reconnaissant dans une hiérarchie externe à l'établissement, ne se sentent pas forcément épaulés, ne souhaitent pas forcément l'être non plus, sauf lorsqu'il y a des cas litigieux dans lesquels il faut trancher entre les élèves et eux.
Il y a ce problème effectivement de formation, de soutien de la part. Alors j'ai parlé de la hiérarchie, mais de la tutelle, enfin du ministère.
Il peut y avoir une forme de repli sur soi ou sur son métier, mais parce que souvent il y a un côté chat échaudé craint l'eau froide. Mmh. Moi, je ne vous connais pas un enseignant qui ne puisse pas vous raconter tous les problèmes qu'il a pu avoir avec tel ou tel chef d'établissement. Je dis pas que c'est toujours le chef d'établissement qui était 100% responsable, mais enfin. On a une crise aussi chez les chefs d'établissement, j'ai envie de dire. C'est pas non plus un métier qui attire. Là, je suis dans un lycée qui est en grève actuellement, aujourd'hui, pour la rentrée, parce que on a une proviseure adjointe qui est en arrêt maladie, qui a explosé sur la réforme du lycée, là, qui a pas tenu le coup. À un moment, nous, on a plus de personnel adulte, on a plus d'encadrants, on a plus rien. Donc, à un moment, tout ça se répercute aussi sur le travail des enseignants, des conseillers principaux d'éducation. C'est très très difficile, et il y a de plus en plus de gens qui effectivement craquent. Nous, le SNALC a beaucoup étudié la question des risques psychosociaux, on a sorti un mémorandum de la souffrance au travail, les témoignages sont accablants, affligeants en fait, et c'est quelque chose qui a beaucoup été masqué en fait, on a on n'a pas trop cherché à savoir ce qui se passait à l'intérieur de l'école. C'était ça le pas de vague, c'était de dire tant que les élèves sont là, on va pas faire trop de conseils de discipline, on va pas trop en exclure parce que c'est pas bien d'exclure des élèves. Mais à l'arrivée, en fait, la crise dans le collège, dans le lycée ou même dans l'école primaire, hein, d'ailleurs, elle gonfle et à un moment, ça explose.
Patrick Rayot, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus?
Non, je pense qu'il faut en effet raccorder la question de la dévalorisation du déclassement ressenti aux conditions générales de travail dans un enseignement secondaire, parce que c'est quand même le collège qui pose le plus de questions, même si des questions se posent ailleurs, bien évidemment.
Et le lycée professionnel.
Et le lycée professionnel, voilà. Tout à fait, dans la mesure où il faudrait regarder peut-être de plus près l'adéquation entre les publics, les programmes, les méthodes pédagogiques. Et là, ça va au-delà des questions de la rémunération et que du coup, les questions de la rémunération sont senties de manière d'autant plus vive que les enseignants ont l'impression de ne pas faire ce qu'ils pensent qu'ils sont là pour faire.
Est-ce qu'il n'y a pas un côté aussi où ça, c'est l'évolution de la société, il y a de plus en plus de personnes et de parents notamment qui ont fait des études, qui ont été à l'école et qui ont une opinion assez précise de la manière dont, à leur avis, ça doit se faire, Jean-Rémy Girard.
Oui, c'est un grand point commun entre les enseignants et les sélectionneurs de l'équipe de France, ouais, de football. C'est que tout le monde a son avis parce que tout le monde a été élève. Et de ce point de vue-là, majoritairement d'excellentes relations avec les parents d'élèves, hein, qu'on soit bien d'accord, la plupart des parents d'élèves sont là pour essayer que leur enfant s'en sorte bien, mais on a souvent ça peut être une sorte de minorité agissante dans certains établissements qui, à un moment, effectivement, vont faire pression, parfois avec les meilleures intentions du monde au départ, hein, mais ce qui fait que va y avoir ce ressenti que, ah bah oui, maintenant, en plus, les parents viennent de plus en plus à l'intérieur des établissements, pas forcément pour leur enfant, mais pour dire non, faudrait pas faire comme ci, faudrait faire comme ça. Et ça crée, hein, chez les enseignants ce sentiment qu'on remet en cause leur professionnalisme et de se dire à un moment on devrait pas dire au médecin faut me prescrire ça existe, hein, mais on devrait pas non plus dire à un enseignant non mais faut pas faire comme ça,
voilà. Ouais, chacun son métier, effectivement il y a une façon de dire non, alors peut-être que ces exercices là c'est trop difficile les punitions, moi je suis pas pour que mon fils ou ma fille ait des lignes. C'est quelque chose qui...
On a arrêté les lignes.
Ouais, ouais, non, mais bien sûr, mais bon, ça peut arriver quand même encore parfois, mais c'est, donc
En France, c'est vraiment beaucoup plus rare parce qu'on trouve d'autres choses.
Patrick Rayou, c'est...
Oui, mais je crois qu'il y a parents et parents aussi. Mmh. Il y a les parents qui ont les moyens de comprendre ce qu'est l'école, comment elle fonctionne, ce qu'on demande, et qui sont peut-être parfois les plus exigeants à proportion de ce qu'ils comprennent comme étant le rôle de l'école dans la promotion de leurs enfants, voilà, et d'autres qui, n'en possédant pas les codes, subissent plutôt les choses. D'ailleurs, ne viennent pas dans les établissements, ce qui est souvent une lamentation des chefs d'établissement. On ne voit que les parents qui sont les plus actifs et pour les enfants desquels il y a moins de problèmes, d'une certaine manière. Il y a une sorte de paradoxe.
C'est ça, beaucoup de collègues disent ça, hein, on ne voit pas suffisamment les parents qu'on voudrait voir et on voit beaucoup trop les parents qu'on n'a pas besoin de voir.
L'exécutif a dit par la voix du Premier ministre, lors de la pré-rentrée des enseignants la semaine dernière et aujourd'hui, et du ministre de l'Éducation, qu'il avait pris conscience de ce besoin de reconnaissance. Est-ce qu'on est dans le discours de rentrée placé sous le thème de l'écoute et de la concertation, comme c'est apparemment le thème général de la rentrée du gouvernement, ou est-ce qu'il y a des choses concrètes qui sont engagées, Patrick Rayou?
Écoutez, il est difficile d'envisager les retombées des mesures qui sont en train d'être prises dans l'immédiat. Le fait que ce soit verbalisé me paraît plutôt une bonne chose. Alors, au moins, on n'est pas dans le déni, c'est déjà pas mal. Mais je crains que la fixation sur le caractère financier de la chose, et notamment dans le côté un peu dérisoire des 300 euros, dont Charline Vanhoenacker disait, elle était plutôt dans l'achat de 2 boîtes d'antidépresseurs ce matin. Ce qui résumait de manière très critique la chose, voilà. Je crois qu'il faudrait s'attaquer vraiment au fond des problèmes de notre éducation, dont on voit bien quand même depuis des années et des années qu'au plan international, elle n'est pas exactement ce qu'on pense.
Pour reprendre les termes de votre débat qui était « Les enseignants sont-ils les mal-aimés du système éducatif ?» J'ai envie de dire... Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour.
J'allais vous poser la question. Il y a des déclarations d'amour, est-ce qu'il y a des preuves d'amour?
C'est très beau les déclarations d'amour. Moi j'étudie la poésie, je suis toujours ravi de lire des poèmes de Ronsard, c'est magnifique, c'est très très beau. Et en même temps c'est très intéressant à étudier. Mais à un moment on aimerait les preuves d'amour qui vont avec et pas juste des déclarations. Là le ministre a dit on va faire des comités de suivi des réformes, il y a la réforme des retraites, on va regarder les salaires. Bon ben, des preuves. À un moment, il faut des preuves. Là, ça va, on va pas tenir très longtemps juste avec des déclarations.
Eh bien, merci à tous les deux. Merci, merci. Patrick Raillot. Merci à vous, Jean-Rémy Girard. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce et Arnold Lasseva à la coordination. Déborah Lepage à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Jérémy Besset. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique émission. Vous pouvez aussi participer au débat du jour sur les réseaux sociaux, toujours dans le respect, bien sûr. Prochain débat, demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.